débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Demain samedi se déroule la finale du concours Eurovision de la chanson. Alors cela pourrait être un simple radio-crochet international, mais c'est beaucoup plus que cela. La qualité d'une chanson présentée par un pays ne suffit pas pour remporter le concours. Lors du vote, les alliances, les amitiés historiques peuvent jouer un rôle crucial. Les rivalités politiques, voire les conflits, s'invitent parfois dans la compétition. Comme tous les grands événements médiatisés, l'Eurovision peut être une tribune pour les chanteurs invités, une vitrine pour les pays organisateurs. Alors, Eurovision, événement culturel ou politique, on va en parler avec nos deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Je commence avec vous, Claire Laboré. Vous êtes documentariste et vous avez signé un documentaire qui s'appelle Eurovision au pluriel et qui sera diffusé ce soir sur Arte à 22h30 ou 35, je crois.
Bonsoir, 22h25.
22h25, la précision est importante. Faut pas rater le début, c'est excellent. Et puis Cyril Brett est lui maître de conférences à Sciences Po, créateur avec Florent Parmentier d'un blog qui s'appelle Eurasia Prospective. Bonsoir à vous, Cyril Brett. Alors, comme exemple de ce mélange d'artistique et de politique dans l'Eurovision, on peut peut-être citer l'exemple cette année de ce contentieux qui oppose la Russie et l'Ukraine. On pourrait peut-être rappeler, Cyril Brett, rapidement ce qui s'est passé.
Oui, alors depuis quelques semaines, il y a un mélodrame ou une tragique comédie entre l'Ukraine et la Russie. Le premier acte, c'est la sélection par la Russie d'une candidate, à la fois handicapée et ayant réalisé une tournée en Crimée sans l'autorisation des autorités ukrainiennes. Le deuxième acte, c'est la décision des autorités ukrainiennes d'interdire l'entrée à cette chanteuse sur le territoire ukrainien pour deux motifs de droit sur lesquels on peut revenir. Et le troisième acte, c'est après de multiples tractations entre l'Ukraine, la Russie et l'organisation responsable de l'Eurovision, qui a conduit la Russie en fait à se retirer de la compétition, ce qui est à la fois un acte politique, hein, bien entendu, donc pour protester contre la discrimination dont fait l'objet sa candidate, et qui est aussi un acte destiné à déstabiliser la compétition. À quelques semaines, on sait que chaque pays organisateur attache énormément d'importance évidemment à la précision du déroulé de cette immense cérémonie qui convoque 200 millions de téléspectateurs par an.
Ça veut dire que les Russes ne verront pas le concours Eurovision cette année.
Exactement, et c'est de là que tout est parti, puisqu'une des conditions pour participer à l'Eurovision, c'est que la télévision publique du pays en question retransmette cet événement selon le cahier des charges de l'Union Européenne de Radiodiffusion.
Mais l'Ukraine, qui n'autorise pas la candidate russe à venir participer, est-ce que le règlement de l'Eurovision autorise une décision comme celle-là?
Alors là, c'est un entremêlement entre le règlement de l'Eurovision lui-même et les règles nationales. Chaque pays, et là on retrouve vraiment la géopolitique la plus dure, chaque pays doit bien sûr accueillir les chanteurs au titre de l'Eurovision, mais aussi prendre une décision régalienne d'admettre ou de ne pas admettre les ressortissants des pays en question sur son territoire. Et là, en raison de l'annexion de la Crimée, donc le 18 mars 2014, un contentieux qui excède très largement l'Eurovision, qui est à la fois culturel, civilisationnel, linguistique, et qui met en jeu la protection des minorités, le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale, et finalement l'identité nationale et l'identité européenne, puisque toute la question pour la Russie comme pour l'Ukraine, c'est de savoir si elles font partie de l'Europe, si elles sont européennes, si elles appartiennent à la civilisation européenne. Alors je suis désolé d'y aller avec des sabots énormes de philosophie comme ça, mais l'Eurovision, vous l'avez dit, c'est un événement culturel, c'est un événement politique, c'est un événement économique qui draine énormément d'argent, qui en génère énormément, et c'est un événement philosophique aussi.
Claire Laboré, donc vous avez réalisé ce documentaire qui sera diffusé ce soir à 22h25 sur Arte. Vous avez donc observé longuement, on imagine, la mécanique du spectacle Eurovision. Est-ce qu'un contentieux comme celui-là peut avoir une influence sur le déroulement du concours, ou est-ce que l'Eurovision va faire sa fête annuelle sans se préoccuper de géopolitique?
Moi, ce que je pressens là, avec mes correspondants qui sont à Kiev cette année, c'est qu'il y a une sorte de presse d'amnésie. En même temps, on parle des journalistes russes qui n'ont pas eu leur visa pour couvrir l'Eurovision cette année, du chanteur bulgare qui a fait un petit tour en Crimée. Ouf, personne ne va rien dire, il va pouvoir être encore dans la compétition. Donc tout ça est très 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 secret et en même temps assez présent.
Le spectacle va se poursuivre de toute façon et ne se ne va pas se préoccuper de ces histoires géopolitiques.
Officiellement, non. En tout cas, avec l'histoire russe. Après, peut-être d'autres histoires.
Mais la mécanique bien huilée a parfois quelques accros. On l'a vu au moment où les candidates russes se sont fait siffler il y a quelques années, au moment même où la crise était la plus grande. On se souvient aussi, non pas des difficultés qu'il y avait dans la cérémonie elle-même, mais au moment de 2014, le succès de Conchita Wurst. On se souvient aussi qu'il y a eu des accrochages au moment où l'Eurovision a reflété en fait la décapilotade et la destruction de l'URSS avec les adhésions successives. On se souvient aussi que ça a été la caisse de résonance du conflit dans les Balkans, puisque la Yougoslavie est un acteur majeur depuis 61, puis dans les années 90, chacun des États. Il y a eu une rivalité qui excède largement l'image de marque touristique des pays qui s'est jouée dans l'Eurovision. Mmh. C'est vraiment une dramaturgie que le documentaire montre admirablement bien. Enfin, il faut vraiment le regarder parce que c'est la première fois qu'on prend au sérieux cette compétition en combinant à la fois une approche de documentariste et de journaliste d'un côté, mais aussi l'apport des sciences sociales qui est considérable maintenant sur cette compétition.
Et on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Par exemple, l'an dernier, la chanteuse arménienne a montré le drapeau du Haut-Karabakh quand elle a appris qu'elle était sélectionnée en finale. Donc
C'est pas la première fois que la diplomatie internationale s'invite dans le concours Eurovision. Donc ces gestes politiques, symboliques, elle a montré le drapeau du Haut-Karabakh, c'était ça.
Au moment où on annonce qu'elle est sélectionnée en finale, elle montre le drapeau. Or, c'est interdit par le règlement dans la politique dite du drapeau. Donc pour elle, c'était après elle a un peu louvoyé, tout le monde a eu très peur qu'elle soit éjectée du concours. Elle a dit c'est un geste de paix, c'est un geste humaniste parce que je suis là pour l'amour.
Donc, elle retombe sur ses pieds.
Voilà,
il y a d'autres incidents diplomatiques qui vous restent en mémoire.
Il y en a plein. Pléthore. Par exemple, incident diplomatique. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la victoire israélienne en 2000, je crois. Et la Jordanie annonce que c'est la Belgique qui a gagné, qui a la deuxième place, pour ne pas dire qu'Israël avait gagné. Toutes les tensions entre...
Il y a l'éternelle question, participera pas ou participera pas?
Ah oui.
Le Maroc, 1980, participe. La Turquie va, s'en vient, n'est plus là depuis 2013. Ah, tiens, c'est curieux, ça coïncide avec la montée en puissance du régime Erdogan et une inflexion assez considérable de la politique turque à l'égard de sa propre candidature à l'Union européenne.
Et la création d'un concours concurrent qui s'appelle Turquie Vision en langue turque.
Donc les Russes ont fait ça aussi, non, le concours concurrent.
Ils ont fait ça, et il faut bien se souvenir aussi qu'à chaque fois qu'un incident, soit diplomatique, soit culturel, soit économique, se produit, il y a toujours la menace d'un concours dissident. Mais la grande force quasi universelle de l'Eurovision, c'est qu'elle est capable de donner une image suffisamment édulcorée, suffisamment organisée, suffisamment encadrée, et suffisamment futile, en fait, pour réunir dans une espèce de démocratie très biaisée, où on vote, on se consulte, on s'allie, on fait des coalitions, une espèce d'immense machinerie démocratique qui va chercher jusqu'aux antipodes et à l'Australie pour célébrer un certain nombre de valeurs, d'ailleurs assez confuses, qui sont des valeurs proprement européennes, de participation, d'inclusion, de non-discrimination.
Donc là, vous nous parlez du vote comme un indicateur géopolitique d'une certaine manière. Il y a cette...
Et aussi grande cérémonie, grande dramaturgie démocratique. Il y a une vraie portée pour que chacun se sente concerné. Il y a une espèce de Sénat, le jury des professionnels, une espèce d'assemblée populaire où chacun vote avec son SMS, qui est une espèce de préfiguration en fait de la démocratie numérique que beaucoup de gourous de la révolution numérique nous annoncent.
Oui, Claire Laborie, vous montrez bien ça dans votre documentaire, cette logique d'alliance entre pays amis ou entre voisins, c'est permanent.
Oui, avec des petites habitudes, c'est-à-dire que les pays scandinaves votent les uns pour les autres, ou les pays de l'Est, c'est souvent un vote de voisinage, en fait. Mmh. On se soutient un peu comme ça, avec des surprises, parfois.
Mais c'est pas une science exacte, quand même, ce vote et ces alliances. Il peut y avoir
certains chercheurs réussissent à trouver des algorithmes entre géographie et statistique pour faire des prévisions très précises. Mmh. Mais c'est plutôt au fil des 61 éditions qu'on a pu trouver ce genre de comportement récurrent.
Alors il y a un biais, toujours, c'est que ceux qui n'arrivent pas à avoir des coalitions stables, soit de proximité géographique, soit de proximité culturelle, linguistique, comme par exemple la France, peinent à réunir autour de leur candidature, alors même que certains, les Big Five, sont dispensés de faire les demi-finales, échouent complètement à faire les Big Five, c'est les membres fondateurs, en fait, c'est les principaux contributeurs qui vont directement. Donc c'est Allemagne, Italie, Espagne, France. Grande-Bretagne, merci. Et en fait, la France et la Grande-Bretagne sont dans le même paradoxe. Elles ont des industries de la variété, des cultures qui sont mondiales avec un effet de projection gigantesque et n'arrivent pas à renouveler l'exploit de 77 pour la France, de 89, je crois, pour le Royaume-Uni. Et ça pose la question, en fait, de la capacité de projection d'une culture.
Même si cette année, ça change un peu avec la France depuis l'année dernière, en fait, depuis Amir, où il y a eu un relais avec toutes les radios locales, l'industrie du disque, pour diffuser la chanson d'Amir en amont du concours.
Ah, donc, ça demande une stratégie, donc.
Absolument. Mmh. Et ça, c'est un peu nouveau. Et je pense que la chanteuse française, cette année, il y a aussi ce renouveau-là. Donc, c'est un petit peu différent.
Mmh. Mmh. Parce que les solidarités n'expliquent pas. Qui s'explique du moins par les liens historiques, culturels auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, Claire Laborie, ne font pas tout, finalement. Ah, l'Eurovision, ça reste un concours de la chanson, la dimension culturelle, artistique est forte, on imagine.
Faudrait pas croire que l'Eurovision est un miroir parfait de l'identité européenne. C'est un miroir qui condense, c'est un miroir qui anticipe et c'est un miroir qui déforme. Il suffit de prendre, par exemple, le lien qu'ont les pays balkaniques entre eux. Ils ont été longtemps unis sous la férule de Tito, puis ils sont affrontés massacrés, et ils gardent des disciplines et des solidarités de vote qui ne tiennent pas compte de cette histoire. Un peu comme s'il y avait une espèce de groupement rêvé de la solidarité. Il en va de même aussi pour les pays scandinaves, qui ne présentent pas politiquement, linguistiquement ou culturellement le degré d'unité qu'ils ont dans leur vision. Et d'ailleurs, je reviens à la Britpop. La Britpop n'est pas reflétée à leur vision. Le palmarès du Royaume-Uni est finalement assez mauvais, 5 ou 6e sur toute l'histoire de ces 62 éditions, alors que la Britpop a envahi depuis le Cool Britannia des années 90 absolument toute la scène mondiale. Donc c'est un miroir qui est très imparfait. Ouais. Finalement.
Avec aussi, enfin moi ce que j'ai retenu, c'était beaucoup des désirs d'Europe, c'est-à-dire pour les petits pays, notamment à l'Est, je pense à l'Albanie, la chanteuse macédonienne que j'ai rencontrée l'année dernière, avait choisi, elle, de chanter en macédonien, ce qui est très rare, vu la standardisation des langues et l'utilisation de l'anglais, en disant, il faut qu'on parle de l'Albanie, il faut qu'on parle de la Macédoine, il faut qu'on montre qu'on est des petits pays et qu'on veut et qu'on peut exister en Europe.
Je crois que
en plus des critères... Hein. D'entrer dans l'Union européenne qui sont très précis, des critères économiques, et nous, on veut faire partie des critères culturels par cette visibilité-là.
C'est exactement ce qu'on fait depuis la deuxième partie des années 2000, en fait, les pays du Caucase, où l'entrée dans la compétition de l'Eurovision, très tardive, hein, 2005, 2006, 2007, pour la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, coïncide avec un désir d'Europe, même si, en réalité, voilà, ni le tissu économique, ni l'infrastructure institutionnelle ne permet une adhésion, mais c'est une espèce d'adhésion fantasmée, en fait. Au projet européen, et face notamment à l'omniprésence de la Turquie dans la région, l'affirmation d'une identité européenne. Alors on peut le voir de façon paradigmatique et vraiment paroxystique avec l'Australie, qui depuis 2015, c'est quel est le rapport entre l'Australie et l'Union européenne de radiodiffusion ?
Forte immigration européenne.
Oui, voilà.
C'est la diaspora, en fait. C'est-à-dire qu'elle est suivie par nombre de Croates, par nombre d'Européens qui habitent depuis des générations là-bas.
Et puis c'est important de gagner parce que le vainqueur accueille l'édition suivante et met donc en avant sur la scène internationale.
Oui, absolument. Avec moi, ce qui m'avait frappé dans mes recherches, c'est notamment l'entrée dans l'Union européenne avec le cas de l'Estonie, qui en 2001 a accueilli l'Union européenne, a accueilli l'Eurovision, petit lapsus, et ça a été pour le pays mais un événement historique. Tout le budget de la culture a été attribué à ce spectacle-là. Il y a eu une aide de la part des pays voisins, ceux d'en face, hein, Suède et Finlande, pour les aider à accueillir le concours. Et c'est majeur. C'est des discours du Premier ministre autour de ça. Enfin, pour eux, ça a été vraiment un tournant.
Oui, c'est essentiel. On peut revenir simplement au cas de l'Ukraine. Il y a un dossier diplomatique qui courait depuis la fin de l'URSS, qui était l'attribution des visas. La question de l'attribution des visas pour entrer en Ukraine pour les ressortissants de l'Union européenne a été débloquée pour l'organisation de l'Eurovision à Kiev en 2005. En fait.
Donc Eurovision tribune, on va dire, extraordinaire pour les pays et leurs représentants dans ce grand spectacle planétaire de la chanson. Vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, il semblerait qu'à l'Est de l'Europe, au nord de l'Europe, les enjeux soient particulièrement forts. Alors, on peut comprendre à l'est, mais au nord.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, encore une fois, c'est un miroir hyper déformant. C'est-à-dire que tous les Scandinaves sont dans l'Eurovision dès les années 60, c'est-à-dire 20 ans avant d'adhérer à l'Union européenne, ce qui est une façon de dire... J'appartiens à l'Europe, mais l'Union européenne, enfin la communauté européenne, n'épuise pas l'identité européenne. La solidarité nordique, hein, et pas seulement scandinave, tient à de multiples facteurs. Il s'agit bien évidemment de petits pays qui n'ont pas par eux-mêmes des marchés du divertissement suffisamment profonds pour vivre. Donc c'est un peu comme dans le marché des start-up et de la révolution numérique. Ils doivent être mondialisés ou ils meurent. En fait. Et donc, ils ont mis sur pied notamment la Suède, donc c'est quasiment 10% du PIB, une industrie en fait, du divertissement qui utilise tous les canaux, et notamment la présélection en fait, des candidats pour l'Eurovision, comme un véritable relais de croissance de leur culture. Ça, c'est un phénomène économique. Puis, il y a un phénomène qui est récent, qui est notamment le rapport des pays baltes avec la Russie. On sait que l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie ont des diasporas russes, sont l'objet de ce qu'on appelle des tests de souveraineté dans le cyberespace, dans l'espace aérien, dans l'espace maritime. Pour eux, la participation, l'investissement dans l'organisation ou la présentation de candidats à l'Eurovision et la solidarité de vote avec les autres pays nordiques, c'est une façon de matérialiser une solidarité européenne qui est en fait leur assurance vie.
D'accord. Hein. On comprend alors pourquoi les Suédois gagnent régulièrement. Je crois qu'ils ont gagné 6 fois le concours Eurovision.
6 fois avec des bonnes recettes puisque certains compositeurs et paroliers suédois travaillent pour les équipes de Malte, pour la Géorgie, pour la Bulgarie. On trouve des noms suédois en générique.
Ouais, d'accord. Dans le générique. Et les Irlandais, alors ils ont gagné 7 fois. Quel est leur secret à eux?
Le secret de l'Irlande.
Il y a en partie, d'abord, le facteur linguistique, ce que la France peine à s'approprier, à accepter que l'anglais est la langue de l'entertainment mondialisé. Il y a la solidarité de vote un peu plus faible dans les îles britanniques. Il y a l'extraordinaire vitalité, en fait, de la variété
de la
musique irlandaise.
Et puis tous les investissements aussi pour ce concours-là, qui est un peu pervers, parce que c'était très compliqué, puisque la plupart du budget du ministère de la Culture irlandais allait pour l'Eurovision. Donc les autres petites compagnies de théâtre et de cinéma ont été très inquiètes.
À chaque fois qu'il y a un État qui a des difficultés financières, qui l'organise, se pose à chaque fois cette question-là. Là, l'Ukraine, qui est sous aide du FMI, quand même, a consacré 23 millions d'euros entre l'État de Thiers et la municipalité de Kiev à l'organisation de cet événement. Mmh. Des scandales de corruption sont apparus comme très souvent. Donc, c'est un révélateur. Pas seulement du côté sucré et du strass des paillettes et des ventilateurs, mais c'est aussi la révélation souvent des turpitudes des pays dans lesquels, et pas seulement à l'Est,
sachant que les compétitions. Quand l'Ukraine a gagné l'an dernier, le superviseur a dit tout de suite, on va vous aider financièrement, mais aussi pour l'infrastructure, etc. Uh-huh.
Bon, on n'a pas le temps vraiment d'en dire plus. J'aurais voulu quand même comprendre en quelques secondes pourquoi la France est aussi peu concernée par cette affaire. 14% d'audience, c'est rien du tout.
Alors, il y a une faible mobilisation des élites culturelles. Ça va changer grâce au documentaire de Claire Laborde. Il y a le facteur linguistique. Et puis, c'est les défauts de notre faiblesse, de notre force. La variété française est une industrie qui fonctionne indépendamment de l'Eurovision. Elle n'a pas besoin de l'Eurovision pour exister, d'où le désintérêt. Et puis, c'est la conception de la politique culturelle. Nous sommes malrussiens, nous aimons Malraux, donc c'est l'accès aux plus hautes œuvres de l'humanité. Ça n'est pas l'entertainment, la culture. Mais ça commence à changer.
Allez. D'un point de vue ironique, peut-être.
Bon. Le favori demain, puisque les pronostics font aussi partie du jeu, manifestement.
Mes multiples correspondants disent que ce serait l'Italie.
L'Italie. Et chez vous, vos correspondants?
À la France, monsieur, la France, bien sûr.
D'accord. On n'en dira pas plus ce soir. Merci à tous les deux.
Merci.
Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po, créateur avec Florent Parmentier du blog Eurasia Prospective et Claire Laborde, documentariste, donc auteur de ce document Eurovision avec un S, diffusé ce soir sur Arte à 22h25. Ne le manquez pas. Merci aussi à Florence Ponce qui a préparé cette émission et Fabrice Violet qui la réalise. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur Radio France Internationale.